Mémoire vive, présenté par Stéphane Bou et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. C'est devenu une des scansions de notre vie politique et sociale moderne. Dès qu'il y a une crise, la fureur conspirationniste se met en branle et les théories dites du complot surgissent pour donner toutes les explications susceptibles de lever le voile. Des explications forcément cachées, tues et mises de côté par des médias dominants et forcément corrompus. La logique est toujours à peu près la même, une vérité dérangeante n'est-elle pas dissimulée derrière la version officielle? Il faut démasquer alors ceux qui tirent les ficelles, il faut dénoncer ceux qui profitent si bien des crises que d'ailleurs la plupart du temps ils les créent de toutes pièces. Ainsi, dans sa récente étude sur le complotisme, l'IFOP révèle un sondage qui nous apprend que 17% des Français estiment que le coronavirus a été fabriqué intentionnellement. Certains pensent même que les coupables sont français, puisque comme nous le dit un gilet jaune dont la vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux, le Covid-19 serait une invention de l'Institut Pasteur. Alors, bonjour Rudi Rechstadt.
Bonjour.
Merci. Alors, on vous reçoit compte tenu des circonstances par téléphone. J'espère qu'on arrivera à bien communiquer pour autant. Alors, vous êtes le créateur et animateur du site internet Conspiracy Watch, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir dans notre émission pour que vous évoquiez votre travail en général, pourrait-on dire. Mais alors, après le déconfinement, alors que la crise liée au Covid et la pandémie globale font encore partie, évidemment, de notre actualité, nous avons voulu rapidement vous solliciter pour voir avec vous comment cet événement avait activé les réflexes conspirationnistes. J'ai donné quelques éléments. Hein, comment il avait produit à la fois ses propres théories du complot, ses boucs émissaires. Alors, première question toute bête, à quel moment, vous, dans votre travail, disons, de veille au quotidien sur les théories du complot, vous avez vu le phénomène conspirationniste se réveiller lors de la crise liée à l'épidémie du Covid ?
Écoutez, on l'a vu, on peut le dater, hein, puisqu'on l'a vu très nettement le 20 janvier 2020, c'est-à-dire le jour où les autorités chinoises affirment et conviennent que, en fait, ce virus ne se transmet pas seulement de l'animal à l'homme, mais se transmet entre êtres humains. Et à ce moment-là, on comprend que c'est une épidémie, et immédiatement, sur les réseaux sociaux, on a plusieurs grands types d'explications complotistes qui émergent. L'idée que c'est un complot de la CIA pour nuire à l'économie chinoise, l'idée que c'est un complot de Big Pharma, le lobby pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, pour nous vendre des vaccins et en réalité nous empoisonner à la fin, ou bien encore, autre thème, l'idée que c'est Pékin lui-même, le gouvernement chinois, qui cherche à réduire sa propre population, puisqu'il y a un problème de surpopulation en Chine, en les décimant comme ça avec un nouveau virus. Donc voilà, c'est les trois grands récits qu'on voit émerger, mais qui n'ont pas à ce moment-là d'arguments très sophistiqués. Les arguments, ils vont venir dans les heures et jours qui suivent, dès le lendemain d'ailleurs, ça commence très fort, et très rapidement d'ailleurs, la même semaine, Bill Gates est choisi comme cible privilégiée des attaques complotistes, en expliquant qu'il finance, c'est vrai, des programmes de vaccination, mais qu'en réalité, il a intérêt à tout cela, et qu'il est derrière en fait une sorte de plan machiavélique et criminel de réduction de la population mondiale, que tout ça est fait pour nous implanter des puces sous-cutanées pour nous contrôler, etc., etc. Et je dois dire que dans les semaines qui ont suivi, c'est d'abord l'idée que ce virus n'est pas naturel, qu'il est artificiel et que c'est en réalité une arme biologique qui va être très largement martelée en fait par les conspirationnistes, alors même qu'on sait, et on le sait depuis le mois de janvier 2001, que ça n'est pas possible, que ça n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que bien ce virus, on a séquencé son génome, on l'a fait dès le mois de janvier, plusieurs laboratoires l'avaient fait dès le mois de janvier et depuis, ça a été fait des milliers de fois. Il suffit de prendre quelqu'un qui est infecté par le virus et de faire un prélèvement et de séquencer ensuite le génome pour s'apercevoir que ce génome ne porte pas de traces de manipulation génétique. S'il avait été manipulé, on le saurait. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qui vient de la communauté scientifique, qui est très fort, qui nous dit « ça ne peut pas être un virus artificiel ». C'est un virus qui a évolué naturellement et qui a émergé naturellement. Mais évidemment, cette vérité-là, c'est précisément celle que les complotistes ne veulent pas entendre. Et pour qui il est absolument crucial de récuser cette origine naturelle du virus, parce que sinon, évidemment, leur château de cartes s'effondre immédiatement.
Alors là, là vous avez évoqué les tout premiers moments, vous nous parlez en fait du mois de janvier, et on se rend compte d'ailleurs que, et là c'est vraiment un phénomène, je pense, plus large, mais que dorénavant et de plus en plus, les théories du complot émergent presque en temps réel avec l'actualité qui les porte. Hein, et c'est quelque chose que, évidemment, le Covid va prouver. Mais,
Je veux dire,
vous nous avez surtout parlé du mois de janvier, et évidemment, on est au mois de juin, il s'est passé un nombre considérable d'événements depuis, et à l'intérieur même de la logique conspirationniste. Ma question, c'est comment vous avez vu évoluer, on pourrait dire, les tendances qui étaient là dès le début, et est-ce que quelque chose, une théorie s'est mise à dominer? Est-ce que chaque officine complotiste revient toujours à ses propres obsessions? Alors, on imagine qu'évidemment, le domaine de la santé, Big Pharma, évidemment, les lobbies anti-vaccins, il y a quelque chose qui remue immédiatement dans ces zones-là. Mais, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que progressivement, quelque chose, disons, de spécifique à cet événement-là est repérable, progressivement dans le temps?
Alors, avant de dire ce qui est spécifique, il faut dire ce qui est classique et attendu. Ce qui était attendu, c'était qu'il y ait des théories du complot autour de cette épidémie mondiale, parce que depuis qu'il y a des épidémies, il y a des théories du complot. Il y en avait à l'époque de la peste noire, il y en avait autour des lépreux, qu'on accusait d'avoir un plan de domination du monde, il y en avait autour des grandes épidémies de choléra au XIXe siècle, il y en a eu sur le sida, sur le zika, la grippe à H1N1, etc. Donc, d'une certaine manière, qu'il y ait des théories du complot, y compris sur cette pandémie, ça n'avait rien de surprenant. Il faut dire un mot quand même, pourquoi, à quoi elles servent ces théories du complot, en tout cas quelle est leur fonction. Dans un moment de très grande angoisse, d'incertitude, on ne sait pas d'où vient ce virus, on le connaît mal, on connaît mal ses conséquences, comment il se développe, comment il se transmet, etc. Eh bien, il est rassurant, paradoxalement, de considérer qu'il est le produit d'une intention malveillante plutôt que le résultat d'une évolution naturelle non intentionnelle. Pourquoi ? Parce que si c'est le produit d'une intention malveillante, eh bien, il suffit, d'une certaine manière, d'identifier les coupables, d'identifier, si vous voulez, le principe maléfique, qui peut être Big Pharma, Bill Gates, George Soros ou le sionisme international, pour se donner l'illusion qu'il suffirait de neutraliser ces comploteurs pour régler le problème. Or, évidemment, ce problème-là, qui est un problème de santé publique, ne se réglera pas de cette manière-là. Et il est beaucoup plus complexe, en fait, à résoudre ce problème. On ne sait même pas s'il y aura un vaccin, en réalité. Mais c'est rassurant de circonscrire la menace et de se dire qu'on l'a identifié et que, d'une certaine manière, on a l'impression de maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Bon. Après, ce qu'il faut dire, c'est que des théories du complot, d'abord, il faut rappeler que cette notion de théorie du complot, elle renvoie à des réalités qui sont très hétérogènes, selon qu'on met l'accent sur ce qui vise la théorie du complot, c'est-à-dire telle entité, tel gouvernement, telle personnalité, etc., ou bien le thème qu'elle met à l'honneur. Par exemple, il y a eu des théories du complot qui faisaient un lien entre la 5G, le déploiement de la 5G, et le coronavirus.
Oui, parce que Wuhan était le premier endroit, je crois, où il y avait eu des expériences sur la 5G, c'est ça ?
Alors en fait, il y a une double coïncidence, à la fois géographique et temporelle. Temporelle parce qu'on déploie effectivement dans le monde la 5G depuis un peu plus de 6 mois. On déploie des antennes 5G en Grande-Bretagne actuellement. Géographique parce qu'effectivement, c'est les Chinois, et notamment un opérateur chinois qui est Huawei, qui est leader dans cette technologie. Donc oui, il y a un lien. Sauf que d'estimer, vous voyez bien que c'est quelque chose de délirant que de faire un glissement vers l'idée que en réalité le coronavirus n'existerait pas, ce qui nous tue ce serait les ondes 5G, ce qui a été dit quand même, hein, ou bien que ce virus en fait aurait pour fonction d'affaiblir nos défenses immunitaires pour nous rendre plus vulnérables aux ondes électromagnétiques produites par la 5G, etc. Enfin, on a pu lire et entendre toutes sortes de foutaises sur le sujet. Et là, je ne parle que de la 5G. Je ne parle même pas de tout le reste. Et alors, effectivement, il y a eu un moment antisémite, il faut le dire quand même, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui s'est quand même largement concentré au mois de mars et avril, qu'on a dépassé depuis. Mais effectivement, la rapidité avec laquelle il est arrivé et à quel point ces thèses-là se sont diffusées de manière extrêmement virale, là, pour le coup, sans faire une mauvaise métaphore avec le virus, est quand même particulièrement préoccupante. Mais juste avant de vous redonner la parole, il faut dire que on ne peut être surpris de ce qui s'est passé, de ce déferlement de fake news complotistes, que si l'on n'a pas pris en compte que tout cela est aussi le résultat d'un travail métapolitique intense de la part de désinformateurs bien identifiés, qu'on connaît bien, qu'à Conspiracy Watch on suit, dont on fait la chronique depuis des années maintenant, et qui n'ont fait là que récolter, d'une certaine manière, ce qu'ils ont semé pendant des années et des années. Voilà, et je pense qu'il est temps, en fait, qu'on en prenne conscience et qu'on prenne la mesure aussi de l'importance symbolique que leurs thèses peuvent avoir dans l'opinion, parce qu'elles influencent considérablement l'opinion.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a à la fois les théories du complot se contaminent, alors on reprend la métaphore, via les tweets de tel individu atomisé sur les réseaux sociaux, mais qu'il y a des lieux très forts de sites médiatiques de, comme ils appellent ça, de contre-information. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette dialectique entre la solitude des individus atomisés qui délirent la situation dans leur coin et des gens qui profitent de cette solitude pour, disons, capitaliser un discours idéologique.
C'est ça, les galvaniser, capitaliser sur un discours idéologique, absolument, pour désigner des coupables. Encore une fois, on est dans un discours qui est éminemment politique, hein, le conspirationnisme. Richard Hofstadter, l'historien, avait parlé de style paranoïaque, mais précisément, on n'est pas dans ce qui relève d'une pathologie mentale ou d'une paranoïa au sens clinique du terme. On est vraiment dans un discours politique, dans un imaginaire politique qui est très sélectif d'ailleurs, qui sélectionne ces théories du complot, qui va adhérer à certaines de manière fanatique et qui va rejeter complètement d'autres, même si on sait que par ailleurs, il y a une forme de, comment dire, d'accoutumance aux théories du complot et à l'imaginaire complotiste. Plus on adhère à une théorie du complot et plus on adhère à des théories du complot et plus on est disponible à la prochaine. Quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'en bout de chaîne, vous vous retrouvez avec des gens qui parfois se mettent à croire que la Terre est plate, et il y en a de plus en plus, parce que précisément, ils pensent qu'on leur ment sur absolument tout. Donc ils rejettent absolument tout. Ils en arrivent à la conclusion qu'on doit aussi leur mentir là-dessus, puisque même les platistes ont des arguments. Des arguments fous, mais ils ont des arguments.
J'ai été surpris de voir, je citais l'étude de l'IFOP qui disait que 17% des Français estimaient que le coronavirus a été fabriqué intentionnellement.
Une étude que nous avons commandité, nous, Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès. On a repris un dispositif qui avait été utilisé par le Pew Research Center aux États-Unis, qui montrait que 29% des Américains croyaient que le virus avait été créé en laboratoire, soit intentionnellement, soit accidentellement. Et chez nous, en France, c'est 26%. 17% intentionnellement, plus 9% accidentellement, mais quand même fabriqué en laboratoire. Et donc, ça fait quand même un quart des Français, 26%.
Sur votre site, j'ai vu aussi les résultats d'une autre étude, je crois un petit peu plus récente, celle d'Oxford, où je lis que 60% des adultes en Angleterre croient, dans une certaine mesure, que l'État trompe le public sur les origines du virus, que 40% pensent que la propagation du virus est, dans une certaine mesure, une tentative délibérée des puissants pour accroître leur pouvoir, je cite, et 20% pensent que, dans une certaine mesure, le virus relève du canular. Et dans cette même étude, je lis que, à peu près à part égale, les Juifs, les musulmans et Bill Gates sont les responsables, disons, 20% des gens pensent que plus
autour
ou moins,
de 20%,
voilà, chaque pense que 20% pensent que ce sont les Juifs, 20% pensent que ce sont les musulmans qui ont intérêt, et 20% pensent que ce sont Bill Gates. Mais je vois, par rapport à la disproportion des chiffres entre l'étude de l'IFOP et ces chiffres-là, je me dis, est-ce que la porosité aux théories des complots varie selon les pays, varie selon les contextes politico-sociaux?
D'abord, elle varie selon les études et selon les méthodologies employées. Ce qui est certain, c'est que toutes les études, les grandes études qui ont été menées, que ce soit en France ou ailleurs, montrent que cet imaginaire complotiste est très substantiel. C'est-à-dire qu'il est quand même, il traverse chacune de ces sociétés. C'est pas quelque chose de d'extrêmement minoritaire ou de résiduel. Non, c'est une représentation forte d'une fraction importante de nos sociétés occidentales démocratiques. Donc, maintenant, nous, on avait fait, par exemple, un sondage, le même, en posant le même type de questions, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et on avait des niveaux de complotisme comparables, avec des distinctions selon les pays sur certaines théories du complot. Mais globalement, on n'avait pas des écarts très significatifs en matière d'adhésion. Vous voyez, il y a des proportions de la population allemande, française, britannique et américaine qui sont très comparables en termes de sensibilité et d'adhésion à cet imaginaire-là. Donc là, l'étude Oxford que vous avez citée, qu'on a relayée sur notre site, elle a sans doute une autre méthodologie, les questions ont été posées différemment, etc. Donc on a des chiffres un peu différents, mais vous voyez, on ne peut pas tout à fait faire de l'arithmétique avec des choses qui sont pas homogènes. Donc c'est compliqué de dire, voilà, ici c'est 1 sur 4, là-bas c'est 1 sur 5. Mais en gros, ça veut dire que quand même, ça n'est pas résiduel. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ça traverse l'imaginaire politique de nos sociétés démocratiques contemporaines, et c'est déjà suffisamment inquiétant.
Alors, cette traversée des imaginaires politiques dont vous venez de parler, j'ai une question à vous poser à propos de sa circulation, justement. Il m'a semblé, mais c'est vraiment peut-être une erreur de ma part, et je vous pose la question, il m'a semblé que lors de la crise du Covid, quelque chose comme un cran avait passé, au sens où on avait entendu se relayer des positions clairement complotistes, mais à des endroits où on ne les attendait pas, sur BFM TV, à la télévision, dans les médias, disons mainstream. Des personnages qui appartiennent plutôt à des sphères académiques, comme je pense à Luc Montagnier, venant sur BFM TV, à prix Nobel de médecine, venant tenir des propos délirants. Autour de la figure de Didier Raoult, évidemment, s'est cristallisé quelque chose à la frontière de ce dont on parle ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme un cran qui serait passé? Est-ce qu'on pourrait dire cet imaginaire complotiste, dont vous, pour reprendre votre expression, gagne du terrain et sort un petit peu des réseaux sociaux pour gangréner, on pourrait dire, la discussion rationnelle telle qu'elle doit avoir lieu dans l'espace public?
Moi, je le crois, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Moi, je ne vois pas comment ces choses-là pourraient aujourd'hui ne pas avoir plus d'influence qu'elles n'en avaient, mettons, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est-à-dire avant, grosso modo, avant Internet, avant que tous les foyers français soient équipés en haut débit et avant qu'on ait des smartphones dans nos poches. Je ne vois pas comment, parce qu'évidemment, ces contenus complotistes, qui sont notamment véhiculés massivement, de manière torrentielle, par des plateformes de vidéos en ligne comme YouTube, on sait par exemple qu'il y a plus de vidéos YouTube vous expliquant que la Terre est plate que d'heures que vous avez dans votre vie. Vous ne pourrez jamais voir en une seule vie toutes les vidéos vous expliquant que la Terre est plate, d'accord, aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des milliards d'heures qui se rajoutent chaque mois. Donc, on est là face à quelque chose qui est à des proportions astronomiques. Bon, donc, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas influencer notre imaginaire et modifier nos représentations. Donc, je crois que d'une certaine manière, oui, ça augmente, en tout cas, ça nous influence plus.
Il y a quelque chose comme une digue qui est tombée, tendrait à tomber entre ces espaces, disons, à l'écart YouTube, qui sont complètement comme un Far West, on pourrait dire, où tout le monde s'exprime, et les espaces, disons, régulés des médiatiques traditionnels.
Du débat, quoi. Oui, mais sauf que en réalité, ces espaces-là, ils existent aussi. Et ils sont investis par un très grand nombre de gens. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que c'est du virtuel et que c'est Internet que qu'il n'y a pas des vraies personnes derrière leurs écrans. Donc, évidemment que ça a des effets derrière. Ça a des effets, y compris politiques. On l'a vu avec des scrutins comme soit le Brexit ou l'élection de Donald Trump en 2016. C'est quand même ce qui s'est passé en 2016 aux États-Unis est intéressant, parce que ce qui auparavant aurait dû disqualifier totalement un candidat à la présidentielle américaine, n'aurait même pas dû lui permettre de passer les primaires, ne l'a pas empêché, non seulement de passer les primaires, mais ensuite d'être élu président des États-Unis, c'est-à-dire quand même chef du monde libre. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que il y a une forme de surmoi démocratique qui s'est effondrée. Et je crois qu'on a vu, à la faveur de cette crise sanitaire, notamment du confinement, où d'abord on avait énormément de gens qui étaient connectés chez eux, beaucoup plus que d'habitude, et ensuite énormément de gens, dont vous et moi probablement, inquiets pour leur avenir, l'avenir de leurs proches, etc., et donc en quête permanente d'informations, presque frénétique, en quête frénétique d'informations sur la maladie, le virus, l'épidémie, on a vu circuler ces contenus complotistes à une échelle, je dois dire, assez inédite.
Là où on ne s'y attendait pas, dans notre entourage, parfois, là où on ne s'y attendait pas.
Exactement, là où on s'attendait pas à recevoir des choses absurdes, complètement folles, de la part de gens qui sont parfois des proches, de la famille, des amis, etc. Comme si vous voulez partager des contenus complotistes, ne vous disqualifiez plus, ne vous faisiez plus honte. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, et ça, je crois que c'est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, pour être tout à fait honnête, et qu'on n'observait pas spécialement avant, c'est que se constituent, y compris sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même s'ils sont, c'est très asymétrique, c'est-à-dire que ceux qui résistent aux théories du complot sont quand même infiniment minoritaires par rapport aux activistes du complotisme, mais quand même, ils se manifestent. Et avant, ça n'était pas le cas. Moi, la première fois que j'ai pu l'observer, vous savez, c'est en décembre 2018, au moment de l'attentat de Strasbourg. On était en plein mouvement des Gilets jaunes, et immédiatement, on a eu des gens expliquant que c'était un complot, et aussi, au même moment, des gens disant « Je suis sûr que certains vont nous dire que c'est un complot. Si c'est le cas, vous arrêtez de me suivre. Je ne veux plus être abonné à votre fil, etc. » Et c'était la première fois. On l'a vu de nouveau se répéter, ce réflexe-là, au moment de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, en avril 2019. Et de nouveau, avec le Covid, on a vu ça aussi. C'est-à-dire des gens, des anonymes, hein, sur les réseaux sociaux qui disent « Bon, là, les complotistes, ça suffit maintenant. » Donc ça, c'est nouveau, c'est bienvenu, ça arrive tardivement, mais quand même. Et ça montre qu'il commence à y avoir une prise de conscience collective du danger que ça peut représenter.
Alors, il faut revenir sur la question du Covid et évidemment sur la question de la manière avec laquelle cette crise a pu réveiller, j'allais dire comme d'habitude, les thèmes antisémites. Alors, je ne cite qu'un tweet que j'ai lu ce matin en allumant mon téléphone, un tweet qui répondait à une intervention de Raphaël Antoven contre Didier Raoult, et le tweet disait Raphaël Antoven, après Cohn-Bendit, après Finky, après Cohen, après Simès, après Buzyn-Lévy, pourquoi nos amis de confession juive sont-ils anti-Harou, si quelqu'un a une idée. Je cite ce tweet parce que peut-être que tous nos auditeurs n'ont pas à l'idée la manière avec laquelle ce genre de choses peuvent se lire ad nauseam sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être qu'avant que vous nous disiez comment... il faut rappeler, évidemment, que le Covid ne peut que réveiller la figure du juif empoisonneur qui a une profondeur de champ historique presque immémoriale dans l'histoire de l'Europe.
Absolument.
Je cite d'ailleurs, enfin, je dis ça pour nos auditeurs, je leur conseille de lire l'entretien que vous avez fait à ce propos aussi avec Pierre-André Taguieff sur votre site qui vient de sortir un livre qui s'appelle Criminaliser les Juifs. Voilà, je ferme ma parenthèse.
Criminaliser le Juif, en janvier 2020, il l'a sorti, et c'est précisément sur le crime rituel et la figure du juif empoisonneur, etc., qu'on accusait... vous savez, d'empoisonner les puits au moment de la peste noire, et qui a justifié des passages à l'acte criminels, les pogroms notamment du 14e siècle. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a vu ressurgir. Pourquoi ? Parce que on a eu un certain nombre d'entrepreneurs de politisation à la fois complotistes et antisémites qui ont évidemment agité ce chiffon rouge parce que Agnès Buzyn, parce que le mari d'Agnès Buzyn n'est autre qu'Yves Lévy, qui était PDG de l'INSERM au moment où le fameux laboratoire P4 de Wuhan a été inauguré. Il a participé à cette inauguration, Yves Lévy, c'est le seul lien qu'il a avec ce fameux laboratoire P4, mais ça suffit lorsqu'on est... si vous voulez, obsessionnellement antisémite, pour constituer une preuve d'une complicité, d'une responsabilité dans ce qui se passe. Vous avez également la figure de Georges Soros, qui a été violemment attaqué. On a dit qu'il était propriétaire de laboratoires en Chine, etc., ce qui est absolument faux. On a eu Jacques Attali, par exemple, qui a été attaqué sur le mode « Regardez, il écrivait il y a 10 ans qu'une bonne petite pandémie servirait à relancer un projet de gouvernement mondial ». C'est absolument pas ce qu'il a écrit, en tout cas pas du tout dans ces termes. Il y avait là un travestissement total de ce qu'il avait dit et écrit à l'époque. Mais c'est quelque chose qui a circulé abondamment, parce qu'en plus on mettait des guillemets à cette fausse citation inventée. On a eu Dieudonné, par exemple, qui dès le début du mois de mars, 2 semaines avant le confinement, dans une vidéo, incrimine les Rothschild. Il dit que la pandémie, c'est les Rothschild qui sont derrière. Et vous avez aussi la propagande iranienne, Presse TV notamment, c'est-à-dire l'audiovisuel public iranien, qui parle d'une pandémie Rothschild. Made in Rothschild, plus exactement. Donc, évidemment, on a vu tout cela ressurgir. Alain Soral dressait carrément une liste de noms juifs, disant, vous voyez, on est, c'est la liste de Schindler, pour reprendre ses mots. Et on a eu ce fameux site qui s'appelle Démocratie Participative, qui est le seul site qui a fait l'objet d'un blocage, d'une décision de justice pour que les fournisseurs d'accès à Internet le bloquent en novembre 2018, qui est un site nazi, hein, il faut le dire très clairement, c'est un site à la gloire du Troisième Reich, d'Adolf Hitler, etc., et qui a carrément titré, en plusieurs jours, le complot juif contre la santé. Comme ça. Avec, évidemment, vous imaginez, tous les photomontages, etc. Et ces choses-là circulent, en fait, sur les forums, 18-25, comme 4chan, 8chan, etc., sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes de réseaux sociaux, ça circule. Parfois, c'est modéré, mais c'est rarement modéré en temps réel. Alors que ces choses-là, elles, apparaissent en temps réel. On a vu apparaître une grande carte, hein, un diagramme avec plein de flèches, des noms et des photos de personnalités, avec à côté un symbole maçonnique et une étoile de David. Mmh. Avec, par exemple, la photo d'Emmanuel Macron, une étoile de David à côté et un point d'interrogation. Sous-entendu, on n'est pas sûr qu'il soit juif. Voilà, donc ces choses-là ont circulé. Voilà. Donc c'est pas juste un épiphénomène. Et en même temps, on ne peut pas réduire complètement tout le complotisme autour du Covid à un schéma antisémite. La personnalité qui s'est le plus détachée, comme ayant cristallisé le plus de détestation et de peur sur sa personne, c'est quand même Bill Gates, avant tous les autres. Parce que Bill Gates, eh bien, il finance, c'est vrai, des programmes de vaccination, de lutte contre l'extrême pauvreté, et on en a fait une sorte comme ça de personnage diabolique qui en voudrait à notre santé.
On voit, j'ai une toute petite dernière question, parce que vraiment là, l'émission malheureusement se termine. Sur votre site, vous avez fait une carte des théories du complot liées au Covid-19. On vous a entendu et on voit que, évidemment, comme on pourrait dire n'importe quelle crise qui devient un fait social total, hein, comme celui qu'on vient de vivre, redéchaîne en fait les théories déjà existantes. Est-ce que vous avez juste le sentiment, on pourrait dire, dans cette carte, à partir de cette cartographie, que quelque chose, disons, de nouveau, un pas de plus a été franchi, pas un pas de plus, mais il y a un coup d'après, il y a quelque chose qui évolue
Oui, c'est la mondialisation, en fait, de tout cela. C'est-à-dire qu'on a vu des sites, nous, complotistes, qu'on suit depuis très nombreuses années, un site canadien, par exemple, repris par le porte-parole de la diplomatie chinoise. C'est pas rien, le porte-parole de la diplomatie chinoise. C'est quand même quelqu'un qui est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. C'est la voix, littéralement, de la République populaire de Chine. Eh bien, il se met, lui, à partager, le 13 mars dernier, des contenus complotistes issus d'un obscur site complotiste, très connu des spécialistes, mais qui normalement, qui n'est pas un site de presse, et qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'en fait le virus a été introduit sur le sol chinois par l'armée américaine. Voilà. Donc les chancelleries aujourd'hui, les gouvernements, utilisent, ne sont plus seulement, si vous voulez, les commanditaires de ces choses-là, ils utilisent aussi des choses, alors qu'ils peuvent aider par ailleurs et pousser par ailleurs via leurs médias, mais ils utilisent des choses qui sont déjà là. Quelque part, le travail a déjà été fait, prémâché, et ils s'emparent de cette idéologie complotiste, ces arguments complotistes, pour servir eh bien, leur politique.
Bon, je vous remercie beaucoup, Rudy, de nous avoir éclairé sur notre moment, hein, grâce à vos travaux, grâce à votre site. J'invite évidemment les auditeurs à aller consulter ce site que l'on soutient, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est conspiracywatch.info. Je peux pas m'empêcher de citer cette chose que j'ai vue sur votre site dans l'étude d'Oxford, cette espèce d'ironie qui fait que les personnes qui croient le plus aux théories du complot sur le coronavirus sont aussi celles les moins susceptibles de se conformer aux directives de distanciation sociale, de se faire vacciner, comme si paradoxalement ceux qui craignaient l'épidémie de la manière la plus irrationnelle et paranoïaque étaient aussi ceux qui étaient les plus propices à la propager. C'est une ironie que je voulais souligner.
Autre ironie intéressante, j'en parle dans mon livre, l'Opium des
Imbéciles. J'allais le citer, justement, qui est paru l'année dernière chez Grasset.
Eh bien, les complotistes, ceux qui sont les plus à même de croire à ces choses-là, sont aussi les plus susceptibles de comploter eux-mêmes si l'occasion leur en était donnée.
Bon, merci encore, Rudy. Donc, je rappelle, conspiracywatch.info, L'opium des imbéciles, votre livre paru l'année dernière chez Grasset. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.